Les improgrammables.
Vous écoutez Les Improgrammables, l'émission improvisée qui prend l'antenne avant même de savoir pourquoi. Pousse le son, écoute ça, un ovni radiophonique pas franchement académique. Tu comprends rien, c'est normal, pas de panique, on t'explique tout dans le générique de façon pédagogique. Le Tour Impro Club, alias Le Tic, débarque sur l'antenne de campus avec sa clique. Une émission 100% improvisée, un animateur et quatre chroniqueurs inspirés qui brodent sans filet sur des thèmes aléatoires pondus par les auditeurs. Et même les plus absurdes, nous devons de leur faire honneur. Tu tombes sur nous et tu te dis c'est quoi ce truc là? Ben c'est pas compliqué, en fait nous-mêmes on ne sait pas de quoi ça va traiter, mais on va s'efforcer d'en parler et surtout d'avoir l'air de savoir où on veut aller. Tic-tac, tic-tac, c'est Le Tic qui passe à l'attaque. Pas d'impro en toc, on embraye du tac au tac. Laisse-toi emporter par nos chroniques sans queue ni tête. Quel que soit le sujet, c'est dans le vif qu'on le maltraite. Envoyés spéciaux, des univers imaginaires, là où on sème nos graines, la logique pousse de travers. Le Tour Impro Club s'empare de ta radio, rebondit sur les mots. Et si par malheur on s'embrouille et bafouille au micro, puisse la créativité prendre l'assaut de nos cerveaux.
Culotté, c'est un peu l'adjectif qui correspond à cette première émission. Une émission culottée qui, en cette occasion particulière donnée, offerte par Radio Campus Tour, nous permet, Tour Impro Club, de prendre l'antenne avant de savoir pourquoi. Et oui, bienvenue dans Les Improgrammables, premier numéro de cette émission radio improvisée proposée par le Tour Impro Club, autour de la table des impronalistes que je vais bientôt vous présenter pour réinventer l'actualité grâce aux mots que vous, chers auditeurs, allez pouvoir nous proposer via l'événement Facebook. Et nous avons également un public nombreux ici. Cher public, manifeste-toi. Un public nombreux qui va donc nous aider à trouver des thèmes pour notre émission improvisée. Il est temps de vous présenter l'équipe de ce soir. Nous avons Nanar de la Pissaladière.
Bonsoir Magali.
Nous avons également David de Poujadiste.
Bonsoir Nathalie.
Jean-Marc Mort à Midi.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Et la touche arme de cette émission, Suzy Salami, bonsoir.
Bonsoir Magali.
Sans plus attendre, je vous propose de commencer cette émission par une impronique qui sera animée par David Poujadiste. Il va me falloir, cher public, un lieu public.
Une bibliothèque.
Une bibliothèque, c'est noté. Un objet.
Un talon.
Un talon. Ok, pourquoi pas. Et un adjectif.
Pessimiste.
Pessimiste. Alors, David, vous avez décidé aujourd'hui d'évoquer une nouveauté qui vous rend un brin pessimiste. C'est l'arrivée sur le marché d'un nouveau produit, le talon numérique et connecté, dont l'utilisation sera possible uniquement, dans un premier temps, dans les bibliothèques. Donc ce talon numérique et connecté dans les bibliothèques, dans quelques secondes, avec David Poujadiste.
Voyons, qui peut me dire de quoi tout le monde parle en ce moment?
Un chronique.
Alors le brosseur, il a coupé les manettes.
On a creusé le sujet.
Et il te croque un oiseau merde et le beurre dans le coulon son berca.
Et on est tombé sur un os.
Et oui Magali, merci beaucoup de ce passage d'antenne. Effectivement, je vais aborder avec vous aujourd'hui l'arrivée sur le marché des talons numériques et connectés qu'on peut tester dorénavant dans les bibliothèques. Alors qu'est-ce que c'est, me direz-vous, les talons numériques et connectés? Eh bien écoutez, c'est très simple. Le talon est numérique parce qu'il est relié grâce à une puce électronique au Wi-Fi de la bibliothèque et il permet de savoir si vous faites trop de bruit, le tout pour éviter les chut intempestifs des bibliothécaires. Donc c'est une vraie révolution dans les bibliothèques.
Est-ce qu'on va vers la fin du métier de bibliothécaire?
Alors, pas tout à fait, parce que le talon numérique et électronique ne permet pas encore de savoir quel livre vous empruntez. Alors, évidemment, le fabricant, qui est un fabricant français, hein, il faut le préciser, songe dorénavant à équiper ses talons numériques de petits flashcodes qui vous permettront vous-même de flasher grâce à votre pied, évidemment, le livre que vous empruntez, et ainsi gérer vous-même votre bibliothèque.
Alors, ça nécessite une certaine souplesse s'il faut passer le flashcode à la hauteur actuelle des lecteurs de flashcode.
Effectivement, c'est d'ailleurs là que le bât blesse et c'est là que l'entreprise connaît des difficultés actuellement, puisque l'entreprise se dirige vers des gants connectés, ce qui n'est pas très pratique pour tourner les pages, hein, ou alors envisage de donner des cours de yoga gratuits à l'ensemble de ses utilisateurs afin qu'ils puissent dorénavant pouvoir baisser leurs pieds et ainsi flasher le code de leur livre. Les universités se sont montrées très très intéressées.
Bien, après comme c'est une invention française, on devine qu'elle va sans doute échouer la véritablement face à un concurrent américain.
Effectivement, c'est d'ailleurs tout à fait ce qui est prévu. Hein. Les observateurs parlent d'un désastre annoncé. Le gouvernement a néanmoins mis 1 milliard 200 000 euros dans l'affaire, espérant qu'elle pourra fonctionner, notamment en Corrèze, où elle a plus de chances d'arriver, car c'est bien sûr une terre de président.
Une terre d'avenir. Merci, merci beaucoup David Poujadiste pour ce petit regard vers l'avenir et un futur évidemment connecté. Je vous propose, car l'actualité est brûlante en ce moment, je vous propose de partir en improplexe puisque l'un de nos impronalistes est en direct. Alors, cher public présent dans le studio, il va me falloir une ville de France ou d'Europe. Je vois que la géographie est le fort de
Londres.
Notre public. Londres, très bien. En Europe, plus pour longtemps. Alors, est-ce que vous avez un nom d'objet ? Un objet, un outil
Une feuille.
Une feuille. Un lieu public, encore une fois.
Un parc.
Un parc et un nom de personnalité célèbre.
Marine Le Pen ?
Non, je ne prends pas la politique, je suis apolitique.
Miley Cyrus ?
Je ne sais pas. Ah oui, c'est une chanteuse. J'allais dire je ne sais pas qui c'est, mais je ne vais pas avouer. En direct à Radio Campus. Alors, c'est Jean-Marc Moramidi qui est actuellement en direct de Londres, où on annonce, attendez, tenez-vous bien, la prise d'otage par Miley Cyrus d'une dizaine d'enfants, qu'elle retient depuis des heures dans un parc, armée uniquement d'une feuille. Alors, d'ici quelques secondes, le temps que nous établissions la connexion avec Londres, nous allons rejoindre Jean-Marc Moramidi.
L'improplexe.
Identifiez-vous et dites-moi où vous vous trouvez.
Vous nous recevez ?
Allez-y, mon vieux, vous êtes en direct.
Mais qu'est-ce qui se passe sur cette île ? On dirait un crétin qui fait semblant d'aboyer.
Alors Jean-Marc, vous m'entendez ?
Oui, 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 je vous entends, Magali. Oui, tout à fait, je me trouve en ce moment à Kensington Gardens, along the Park Street.
Très bien. Et donc, alors est-ce donc vrai, Miley Cyrus aurait pris en otage des enfants ?
Oui, 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 tout à fait, affirmatif. Miley Cyrus retient depuis 10h15, aujourd'hui 9h15 heure anglaise, 15 enfants dans le parc, à proximité de la médiathèque, tout simplement, parce que ces enfants n'ont pas voulu acheter le dernier disque de Miley.
D'accord, oui, donc les motivations sont enfin éclaircies. Est-ce que l'on sait si elles menacent la vie des otages ou si les négociations ont été engagées ?
Alors écoutez, dans les premières minutes, on a cru à un coup marketing génialissime. Ça ne s'était plus fait depuis la prise d'otage de Johnny Hallyday lors de l'Olympia 74. Mais effectivement, lorsqu'elle a commencé à écorcher les doigts des premiers enfants, là on s'est dit que c'était du sérieux. Le MIT, c'est-à-dire le Metropolitan Institute Torpilosh Biluk, a essayé de résoudre effectivement le cas, tout simplement.
D'accord.
Mais pour l'instant, ils n'y sont pas parvenus.
Donc il a résolvé le cas sans succès et oui, avec quelques difficultés en français.
Bah, pour l'instant, ils sont en train encore de parlementer. Bah, justement, je m'approche. Sir, un père d'enfant.
Yeah.
Hey,
I'm really worried about Miley because she's very sexually aggressive and
alors James est en train d'essayer d'interpeller Miley.
I'm very afraid that my daughter is gonna become a stripper.
Il attire son attention parce qu'il a.
So please Miley, free my daughter. She's innocent.
Il a peur pour l'avenir de son fils qui devrait être bûcheron au Canada, mais effectivement il ne comprend pas la situation. Il pense que Miley va le faire changer de vocation.
D'accord, donc vraiment tout l'avenir de l'Angleterre finalement est un petit peu entre les mains de cette star.
Oui, oui, tout à fait. Là, le Premier ministre s'est rendu à Buckingham Palace, évidemment, pour aller négocier avec la reine d'Angleterre. Miley a réclamé d'être disque d'or dans tous les pays européens. Pour l'instant, la problématique, c'est qu'elle n'a vendu que 15 CD, notamment 3 en France, dans le Pas-de-Calais.
D'accord. Oui,
et
évidemment.
Aujourd'hui, voilà, l'issue semble incertaine, étant donné que cette musique très agressive a déjà été interdite dans de nombreux pays à travers le globe.
D'accord. Eh bien, écoutez, Jean-Marc, on reste en ligne. Peut-être reviendrons-nous vers nous pour avoir
oui,
plus
tout
d'avancées.
À fait. Je vous fais signe. Dès qu'il y a du nouveau, je vous fais signe.
Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci. Donc, c'était donc Jean-Marc Moramidi en direct de Londres avec donc cette prise d'otage par Miley Cyrus dont nous reparlerons peut-être un petit peu plus tard. Nous allons enchaîner sur un ton un petit peu plus léger. Quoique. Cher public, je vais avoir besoin d'un métier. Le public est-il là ?
Masseur kinésithérapeute.
Masseur kinésithérapeute, bien sûr. Et un prénom.
Jean-Pierre.
Jean-Pierre. Il me faut un verbe, s'il vous plaît.
Fumer.
Ok. Et un animal.
Un koala.
Un koala, très bien. Donc nous allons passer à l'impro-interview qui sera animée aujourd'hui par ma collègue et confrère Suzy Salami. Suzy Salami qui reçoit aujourd'hui un invité qu'on ne voit pas souvent sur les plateaux. Il s'agit de Jean-Pierre Masseur, président d'honneur de la confrérie des fumeurs de koala. À l'occasion d'un grand congrès qui réunira le mois prochain les fumeurs de koala du monde entier à Paris, nous avons donc l'honneur de recevoir Jean-Pierre Masseur, représentant français de cette organisation. Donc d'ici quelques secondes, l'impro-interview avec Suzy Salami.
L'impro-interview.
Ah, vous avez raison.
Jimmy, est-ce que ça te plaît lorsque Scraps s'agrippe à ta jambe et qu'il se frotte donc en bas ?
Eh bien, tout à fait, Magali. Je suis en compagnie de Jean-Pierre Masseur, le président d'honneur, le représentant français de la confrérie des fumeurs de koala. C'est vrai que ces petites bêtes, on les adore. Et finalement, est-ce qu'on ne les aimerait pas plus si elles étaient fumées ? C'est la question que s'est posée Jean-Pierre Masseur et ses collègues. Alors, Jean-Pierre Masseur.
Bonsoir.
Bonsoir. Un koala fumé, ça a quel goût ? Tout le monde se demande. Ça sent quoi ?
Bien, ça ressemble un petit peu à du filet mignon, sauf que c'est plutôt gélatineux, hein, puisque le koala est réputé pour sa gélatine. Donc, on commence par le dépecer, hein, d'abord, on enlève l'ensemble de ses poils. On enlève aussi un petit peu de ses dents, parce que ça fait mal. Et ensuite, on le fume uniquement aux bois de cagette, parce que le koala ne se fume qu'aux bois de cagette, ça donne un petit goût bien agréable.
Bien sûr, aux bois de cagette. Alors, est-ce que j'ai envie de dire les protecteurs de la cause animale, non, alors, ces personnes qu'on adore finalement.
Je vous
finalement,
arrête tout de suite parce que les protecteurs de la cause animale, on les emmerde. On est très clair sur la question. Hein,
voilà,
je suis désolé, mais
Magali, c'est-à-dire que nous sommes en
compagnie. Soyons vigilants. Nos auditeurs sont pour leur grand nombre des amateurs de cause animale, hein, des
voilà.
Soutiens.
Oui, alors bon. Messieurs, mesdames, les véganes, on vous adore et c'est vrai que tout le monde adore les koalas et on aimerait mieux les voir en liberté, manger de l'eucalyptus, ça c'est sûr. Mais il s'avère que pour une repeuplade de la planète, est-ce que on n'est pas obligé de passer par là ? Est-ce que c'est pas aussi un moyen de nourrir l'écosystème, cette façon de fumer les koalas ?
Alors si, complètement. C'est justement l'argument que j'allais vous donner, parce qu'en fait, manger du koala, si vous voulez, ça veut dire qu'on mange moins de vaches. Si on mange moins de vaches, on a une empreinte carbone diminuée. Ce qu'il faut savoir aussi sur le koala, c'est qu'en France, le koala a été introduit particulièrement dans les zoos, que c'est un désastre total pour la biosphère locale, puisque voilà, les koalas mangent l'ensemble des moustiques, qui, je vous le rappelle, fait quand même partie de la mécanique quantique de la nature, hein, quelque part.
Alors, en vue de sauver l'écosystème, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire et également au niveau des hippopotames qui sont, et des rhinocéros blancs qui sont quand même vraiment en voie d'extinction ? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de relancer la communication auprès de ces animaux qu'on adore et qu'on aimerait voir plus présents ? Est-ce qu'on ne peut pas envisager...
Nous avons pensé à fumer effectivement des hippopotames. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de cagettes. Ouais. Beaucoup trop de cagettes. Nous, on se fournit sur les marchés français. Bon, il y a de moins en moins de marchés, donc il y a de moins en moins de cagettes. Donc, on peut fumer des koalas. On pensait plutôt fumer des petits ratons laveurs, c'est plus petit, c'est plus pratique.
Donc le monde est également en manque de cagettes.
Le monde est en manque de cagettes, c'est ça aussi le réchauffement climatique, on ne le dit pas assez, je pense.
Alors, juste, si je puis me permettre, ce grand congrès qui réunira le mois prochain, donc tous les représentants nationaux et internationaux, en quoi va-t-il consister ?
Alors nous allons justement débattre sur la façon dont on doit fumer les koalas. Est-ce qu'on doit continuer aux bois de cagette ou est-ce qu'on doit passer aux bois de cercueil ? Parce qu'aujourd'hui on sait que dans les crématoriums on ne fume rien et c'est une honte. On pourrait fumer des koalas, du filet mignon, du saumon dans les crématoriums. Ainsi l'empreinte carbone serait diminuée parce que vous disiez tout à l'heure que nous ne sommes pas verts parce que nous fumons des animaux. Mais nous sommes très écologistes et très écologues aussi. Et nous souhaitons justement au contraire... On souhaite fumer des koalas dans les crématoriums. L'avenir, c'est ça. Voilà, merci, c'est tout.
Eh bien, Jean-Pierre Masseur, merci beaucoup pour cette innovation vraiment innovante. Magali, vraiment une prouesse. Vive les cagettes et vive les koalas.
Tout à fait, décidément, une première session des improgrammables tournée vers l'avenir et le futur. D'ici quelques instants, nous retrouverons l'improlémique. Cher public, si vous êtes connecté sur l'événement Facebook des improgrammables, n'hésitez pas à nous donner une couleur, un outil et un animal. Mais avant cela, on passe à une petite pause musicale avec Necro, Push It to the Limit.
We'll push it to the limit like a tourniquet, crushing your cranium, mushing you, murder you, burning you to a crisp, live on uranium. Maintaining sins like Iranians, holding grenade pins, blades in your skin, stomp you with a whole parade of Tims. Put a gem star to your flesh paw, the emperor of demented sentences with a temple, your mentor. Demonic like Skeletor, Destro, Decept, criminal, corrupted culprits will beat you to death. Keep your head up or you get your head cut off, your whole life shut off with a knife, wipe the blood off. My perspective is respect this or expect to be left with a neck full of stitched up imperfections. Cause you bitched up in retrospective, your collective would've switched up if you knew what a bunch of sick fucks we are when we get hectic. Too late, drama, we all up in it, go all out. Push it to the limit.
Push it to the limit. Walk along the razor's edge. Don't look down. Just keep your head up till you're finished. Open up the limit. Past the point of no return. Reach the top. But you gotta learn how to keep it. Push it to the limit. Walk along the razor's edge. Don't look down. Just keep your head up till you're finished. Open up the limit. Past the point of no return. Reach the top. But you gotta learn how to keep it.
Attack you like an evil gargoyle with swords. Burn you like radiation. Leave you a charbroiled corpse. We represent every satanic element. I'm malevolent. Murder you, you're getting sent to where the devil went. If I'm wrong, you could be dead right. When you pass, you'll be forgotten cause I'm rotten like the website. We get ogre-ish, poisonous, like a cobra's kiss. Demonic like when the last day in October hits. You're miserable living, trapped in your bed. You should be clapping your head cause you'll be happier dead. You little pussies, you choke to death with a Kotex. You're dying little by little, every second go check your Rolex. You're not living forever, I'll bet you. How much you wanna put up for the right price, somebody will dead you. No cushion for lyrics, mushing you if you're timid. Extreme rap, explicit, we push it to the limit.
Push it to the limit. Walk along the razor's edge. Don't look down. Just keep your head up till you're finished. Open up the limit. Past the point of no return. Reach the top. But you gotta learn how to keep it. Push it to the limit. Walk along the razor's edge. Don't look down. Just keep your head up till you're finished. Open up the limit. Past the point of no return. Reach the top. But you gotta learn how to keep it.
You tremble from the brutality. Make you resemble a George A. Romero character in reality. Bring your big posse, you'll be a bunch of fertilized faggots like Versace and Liberace. Get killed in a building, smashing you like Zildjian cymbals, fucking you like Brazilian children. Write your will out to your attorney. After a weekend at Bernie's, you'll be deceased, dead on a gurney. I rip the beat like the contours of your flesh stripped as you stare upon gore, it's a trip. Can't think about food with bullets buried in your belly, but notice bloody flesh looks like blueberry jelly. You're repulsively corrosive. Your mother taught you not to get involved with explosives. Skull open like Iron Maiden Eddie. Kaput finish, wanted excitement, you died for it. You pushed it to the limit.
Push it to the limit. Walk along the razor's edge. Don't look down. Just keep your head up till you're finished. Open up the limit. Past the point of no return. Reach the top. But you gotta learn how to keep it. Push it to the limit. Walk along the razor's edge. Don't look down. Just keep your head up till you're finished. Open up the limit. Past the point of no return. Reach the top. But you gotta learn how to keep it.
Les improgrammables.
L'émission improvisée qui prend l'antenne
avant de savoir pourquoi.
Nous sommes toujours dans les improgrammables, l'émission improvisée par le Tours Impro Club ce soir en direct sur Radio Campus Tours. C'est le premier numéro. Nous sommes donc coupés du monde et nous n'avons pas pu voir si, chers auditeurs, vous avez donné des thèmes par Facebook. Nous allons donc solliciter notre public de folie, cher public, es-tu là ? Pour demander des mots qui serviront de thème à la prochaine improvisation, cher public, il me faut un outil que tu trouves dans ta caisse à outils.
Un marteau.
Un marteau. Une couleur.
Le vert.
Le vert. Un animal imaginaire.
Une licorne.
Une licorne. Très bien. Nous allons donc passer à l'improlémique. L'improlémique, le débat de la rédaction des improgrammables. Débat qui sera animé ce soir par Nanar de la Pissaladière. Bonsoir Bernard.
Bonsoir Mag.
Le thème de ce soir, eh bien, ce sont les dernières annonces du gouvernement concernant les licornes vertes qui ont déclenché une vague de protestations. D'autant que le projet de loi pour réglementer l'utilisation des marteaux dans la chasse à la licorne verte a suscité bien des réactions. Nous allons voir d'ici quelques secondes que cela ne vous laisse pas indifférent, Nanar.
Parce que c'est notre projet !
Je vous ai compris !
Vive la République !
Je vous demande de vous arrêter.
Vive la France !
J'en avais assez de cette bande de racailles.
Improlémique.
Ils ne vont encore pas être d'accord.
Alors Nanar, donc, une vague de protestation par rapport au projet de loi pour réglementer l'utilisation des marteaux dans la chasse à la licorne verte. Où vous positionnez-vous sur l'échiquier politique ?
Eh oui, comment se positionner face à ce sujet d'ampleur qui traverse la société française à l'heure actuelle ? Un autre petit fait divers aura suffi à rallumer la mèche, si j'ose dire. On pense tous au petit Steven de Noisy-le-Sec, enfourné par la licorne sauvage en rentrant de l'école. Le cartable en cuir n'aura pas suffi à sauver l'enfant. L'extrême droite s'en est emparée car la licorne était sur le territoire français de façon illégale. Et effectivement, ça a donné lieu à un débat à l'Assemblée nationale, ce projet de loi si controversé de la chasse à la licorne au marteau. Bon, d'un côté, nous avons l'extrême droite qui veut durcir le débat, si vous voulez, sur la chasse à la licorne. On en revient à la protection de l'environnement avec l'interview tout à l'heure de Suzy, etc. On reste dans le sujet. Et on a de l'autre côté la ligue des fans d'Harry Potter et toute la, je voulais dire, la communauté geek dans son ensemble, qui est très protectrice vis-à-vis de ces animaux légendaires qui nous arrivent du nord de l'Europe. Oui. Alors moi, mon point de vue sur le sujet, c'est peut-être un entre-deux. Est-ce que on peut imaginer, parce qu'on peut pas laisser non plus ce genre d'événements se reproduire. Nos petits écoliers de France doivent aller à l'école sereinement, sans risquer de se faire enfourner par une licorne comme ça au détour d'une rue. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas.
Moi, j'ai cru comprendre que la FCPE proposait d'équiper les sacs à dos et cartables de carapaces de tortues géantes pour justement parer à toute éventualité. Est-ce
c'est
que
ça.
Vous avez entendu
financer notamment, il y a le groupe Nintendo qui se met sur le sujet puisque ça fera une démarche publicitaire en même temps. Donc c'est pour ça que l'éducation nationale n'est pas complètement son accord. Mais on parle aussi de petits embouts, protégez-les, de petits embouts à licorne. Si
ah
vous voulez.
Oui, un peu comme on met sur les cornes des taureaux dans
tout
les
à fait dans Interville, voilà, des petites bouboules de qui ressemblent à des petites boules de ping-pong quoi. Voilà. Après il y en a qui trouvent qu'on est trop faible avec
Bien.
Le sujet.
Écoutez, nous avons au bout du fil la sosie officielle de Hermione Granger, ce personnage célèbre de Harry Potter qui elle aussi a un avis bien tranché sur la question.
Oui. Oui, alors, vous m'entendez ?
C'est à vous, oui.
Oui, alors, je me permets quand même de remettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens veulent de la vie, les gens veulent de l'inventivité, les gens veulent rêver. On a la chance aujourd'hui d'avoir des licornes vertes sur notre territoire et vous voulez leur mettre des embouts en capuchon sur les cornes, vous voulez leur couper les sabots, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites au monde ?
Je comprends pas pourquoi une gamine hystérique vient dans débat là.
Oui,
là, ça n'a aucun sens.
D'autant, mademoiselle, que c'est ça ou se faire exterminer à coups de marteau. Donc en même temps.
Il faut arrêter de toucher à ces Edwige ! Notre propre Edwige française, qui était si belle, que vous avez exterminée avec la catapulte, monsieur.
Je suis coupable de rien, je vous remercie.
Oui, vous et tous ceux qui sont contre. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons que les salamandres, les geckos enflammés, nous voulons que les licornes vertes, que les Edwige à poils flamboyants, que les phénix restent en vie.
Écoutez,
je
pense aussi à la
monsieur.
Communauté moldue. Je parle pas qu'en mon nom, madame. Je pense à tous ces gens sans pouvoir qui courent les rues, qui n'ont pas les moyens de se défendre, madame. Qui n'ont pas les moyens de se défendre. Moi, je parle pour le bas peuple.
Il y a eu des accidents, mademoiselle, tout de même. Donc, et comme je vous le disais, comme je vous le rappelais, il s'agit quand même de choisir entre l'extermination à coups de marteau, qui est un petit peu violente, quand on y pense, et voilà, trouver d'autres solutions, la carapace de tortue, les petits embouts sur la corne.
Il ne faut rien faire et il faut les laisser tranquilles.
Pour vous, il faut les laisser en liberté sans...
Oui.
Mais alors déjà qu'il y a les trottinettes à moteur sur les trottoirs...
Déjà, merci Anne.
Bon, est-ce qu'on a au bout du fil, nous avions un expert au bout du fil, je ne sais pas, oui.
Oui, bonsoir, oui.
Oui, bonsoir monsieur, c'est à vous, vous aviez aussi une opinion sur cette question des licornes vertes et de la réglementation qui est projetée par l'Assemblée nationale.
Oui, bonsoir, Gontran Moreau de Saint-Amand-Montrond. Oui, alors moi, tout à fait. Dans nos campagnes, les licornes, parlons-en, mais c'est un vrai fléau. On a beau accuser les sangliers, mais les licornes, c'est bien pire. Parce qu'avec leurs cornes, leurs fameuses cornes, qui leur donnent leur nom si mielleux, eh bien les licornes, elles retournent tout, madame. Moi, mes pissenlits que j'ai plantés il y a 2 jours, bah ils sont déjà foutus.
Ah.
C'est un scandale!
Vous l'entendez, la France d'en bas, vous l'entendez?
Effectivement. Effectivement, Nanar, est-ce que vous voulez peut-être rebondir sur tous ces témoignages et conclure sur le sujet?
Eh bien oui. Concluons.
Je vous en prie.
Concluons ce grand débat. Merci, Maggie.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, alors reprenons.
Alors, nous remercions la technique d'avoir signalé que cette improvisation partait en quenouille. Alors... Un grand merci. Donc oui, une conclusion peut-être
oui,
sur cette thématique. Bah,
oui, de nouveau.
N'insistons pas, puisqu'au bout de deux boules noires, c'est l'élimination. Donc merci Nanar. Donc pour ce sujet épineux, hein, donc nous suivrons dans les prochains improgrammables peut-être la suite de ce projet de loi sur les licornes vertes. Vous êtes toujours donc avec les improgrammables, l'émission improvisée par le Tour Impro Club et une improvisation, eh bien il y a des fois comme ça où ça se passe comme ça peut. Nous allons bientôt partir à la rencontre du peuple, justement nous parlions du bas-peuple, eh bien c'est l'occasion de descendre dans les rues, sur les places des marchés pour rencontrer les auditeurs avec notre impro-trottoir. Cher public, il me faut le nom d'une personnalité célèbre. Donald Trump, très bien. Et un lieu public. Une piscine municipale, bien. Donc, Jean-Marc Moramidi va bientôt nous rapporter donc, des sons venus du trottoir, et plus précisément de la piscine municipale, où il a posé une question très brûlante. Donald Trump doit-il prendre sa retraite ou continuer sa carrière? On vous dit ça dans quelques secondes.
Vous
savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Ah, oui, oui. Je suis en direct de la piscine municipale de la Haie les Forges. Ah, je vois une dame. Bonjour madame.
Oui.
Alors, pour vous, la question épineuse du moment, Donald Trump. Il doit prendre sa retraite ou pas?
Oui, écoutez, je suis en pleine séance d'aquagym là, donc ça me dérange.
Oui, alors madame, entre deux brasses.
Oui, non, si vous... C'est surtout un problème de couleur. Je pense que s'il allait dans une piscine, monsieur, l'eau serait complètement jaunie.
Et merci madame pour cette réaction à chaud. Ah monsieur qui fait ses longueurs là-bas. Oui monsieur, alors pour vous, oui. Donald Trump retraité ou pas?
Ah non, pas du tout. Donald Trump il est super, il fait du super bon boulot.
Lâchez pas trop vite s'il vous plaît.
Ouais, mais moi j'ai un timing à respecter.
J'ai grâce
à lui, c'est super parce qu'il n'y a plus de Mexicains. Donc vraiment Donald Trump faut continuer.
Alors Donald Trump, les nachos, tout ça. Ah tenez, le maître nageur. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour, oui.
Alors vous, Donald Trump, alors je sais que vous passez votre journée à surveiller, mais vous avez quand même un avis. Retraite
oui,
ou pas?
Oui, oui. Non, pas la retraite. Hein. Quand on voit le nombre de victimes d'agressions sexuelles qui se déclament à son égard, je pense qu'il est encore en forme, le coco. Il peut encore continuer au moins 4 ans.
Alors pour vous, ouais, direct au procès, 4 ans, la muraille.
Exactement.
La muraille. Monsieur qui passait à côté, alors...
Oui.
Monsieur la frite.
Oui.
Comme ça qu'il vous faut vous appeler, peut-être.
Oui.
Donald Trump.
Oui, Donald.
Il part ou pas?
Oui, moi j'aimais beaucoup lire les histoires de Donald quand j'étais petit. Ça existait déjà et je vois pas pourquoi on le ferait partir, parce qu'il fait partie de la famille, Donald.
Mais là, c'est le président des États-Unis, le blond.
Enfin,
le orange, maintenant.
Ah, oui, je le connais pas bien. Je suis désolé, je le connais pas bien.
Ah, vous ne le connaissez pas bien. Bon, bah... Aucun avis. Allez, on finit par madame qui sort de la piscine visiblement avec ses enfants.
Alors, écoutez, monsieur, je suis actuellement la mairesse responsable en chef de la gestion des piscines. Vous n'avez rien à faire là. Je suis désolée d'interrompre votre petite cérémonie. Mais vous n'avez rien à faire là, monsieur. Vous n'êtes pas légalement dans une tenue adéquate pour traîner au bord d'un bassin. La réglementation stipule un maillot de bain, monsieur, en matière isothermique néoprène. Vous n'en avez pas, monsieur. Je suis désolée. Je ne sais pas qui est Donald Trump. Ça ne m'intéresse pas. On vous demande de sortir, monsieur.
De Radio Campus. Non,
je suis désolée, maintenant. Vous sortez, monsieur.
Vous n'avez pas pu passer par le pédiluve avec vos rangers, c'est pas possible. Donc vous sortez maintenant.
Vous sortez, monsieur.
Dehors, radio là, dehors.
Eh bien écoutez, Maggie, note pour plus tard, la piscine en ranger, c'est en maillot borate, ça va pas le faire.
Merci Jean-Marc, toujours au plus près de la population française pour recueillir ses opinions. Nous allons marquer une petite pause musicale avec Opium du Peuple et une reprise de L'Aigle Noir.
Avant de savoir pourquoi.
C'est le moment d'une petite parenthèse toujours dépaysante dans les improgrammables avec l'improportage de la rédaction. Cher public de folie ce soir, public, es-tu toujours là ? Il me faut un sport, public.
Le karaté.
Le karaté. Il me faut un pays lointain.
Bolivie.
La Bolivie, très bien. Il me faut un objet.
pince à noix.
Une pince à noix. Et enfin, un autre objet. Une chaussure. Très bien, merci public. Nous allons partir dans quelques instants pour la Bolivie avec notre impronaliste Nanar de la Pissaladière qui a rencontré en Bolivie le peuple des chaussures et il a découvert avec eux des rites autour de la naissance, du mariage, de la mort très originaux puisque ces rites nécessitent l'utilisation de pinces à noix et la pratique du karaté. D'ici quelques secondes, donc, un impro-portage en Bolivie, avec le peuple des chaussures et Nanar de la Pissaladière.
L'impro-portage.
Jamy, viens voir, je suis dans une plantation de cannabis.
On vous emmène.
Comme tu ne risques pas d'en trouver en France.
Ça y est, c'est allumé.
Au bout du monde.
Et voilà, là je suis à l'ouest.
Chers auditeurs, bonsoir. Les impro-portages des improgrammables m'emmènent ce soir à l'autre bout du monde, en Bolivie, où j'ai eu le plaisir et la joie de rencontrer le peuple des chaussures. Cette peuplade qui a accueilli ma venue les bras ouverts et, vous le savez certainement, précurseur dans le domaine de la gynécologie. J'ai d'ailleurs eu le grand plaisir, dès le premier jour de mon arrivée, de pouvoir assister à l'accouchement d'une chaussurette, la femme du peuple des chaussures. Je pénètre dans la hutte, elle est allongée, très simplement, car, comme je vous le disais, leurs techniques de gynécologie m'ont enlevé toute douleur à la femme qui donne naissance en riant et en gazouillant. La position d'une petite pince à noix fait sortir le petit chaussillon en toute douceur. Je vais essayer de questionner la maman sur cet heureux événement avec l'aide de Jean-François, mon traducteur, qui m'accompagne. Madame, comment s'est passé cet événement fabuleux ?
Madre mia, c'est la première fois de ma vie.
C'était très compliqué de mettre ce bébé au monde. Parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. La chaussure gauche est partie. Je n'ai plus qu'un souvenir de lui. Et je vais devoir l'élever seule dorénavant. C'est très compliqué ce qui se passe en ce moment dans ma tête. C'est vraiment, vraiment compliqué. C'est vraiment la vérité vraie.
Et apparemment, le papa de cette petite tongue qui vient de naître sous mes yeux a dû partir à la capitale pour participer à un défilé de mode. Le papa est mannequin, chaussures, apparemment. La mère est très peinée.
Si, mi mari
ma chaussure préférée est partie au défilé de la Garfield car il doit présenter la nouvelle collection des bottines avec la cordillère des Andes. Il n'a pas voulu m'emmener parce que j'étais trop grosse et qu'il ne voulait pas payer l'excédent bagage dans l'avion. J'ai donc dû affronter seul cet événement, ce qui est très très dur pour moi.
Yes, la verdad.
C'est vert et c'est la vérité vraie.
Je pense que nos auditeurs veulent comprendre maintenant en quoi le karaté affecte votre vie quotidienne et notamment ces moments clés que sont les rites de passage. Je rejoins donc un petit chaussillon qui sort de l'école tout frais. Celui-ci est sur le point de se faire baptiser. Comment se passe un baptême en Bolivie dans le peuple des chaussillons ? Je t'écoute, petit.
Pero que... Que pasa nadie de me pasa ?
Tu traduis, JF ?
J'ai très envie d'aller à l'école très vite parce que je sais que je vais avoir une paire de lacets tout neuf Et du coup, je pourrais jouer à saute-mouton. Et ça, c'est notre rite de passage. Alors, on s'entraîne très tôt aux techniques de karaté. Pour faire IA de façon à pouvoir sauter l'ensemble des lamas juste avec une paire de lacets.
Merci, gamin. Va courir. Je continue mon périple teinté de karaté et de gynécologie en atteignant la cave d'un vieil homme qui semble collectionner les semelles. Pourquoi donc collectionne-t-il les semelles ? Posez-lui donc la question, Jean-François.
Je collectionne les semelles parce que ça me rend fort. C'est un signe de reconnaissance ultime dans la société. Celui qui a les semelles a le pouvoir, et celui qui a le pouvoir détient les chaussures. C'est pour ça que j'aime faire des paraboles.
Très intéressant. Écoutez, la version longue de ce reportage d'une heure et demie est disponible sur notre site internet. Je vous invite à l'écouter pour en savoir plus sur l'étonnant peuple des chaussures.
Très bien, encore une expérience vraiment vraiment synonyme d'évasion, avec encore une fois toujours cet aspect anthropologique dans les reportages, dans les impro-portages de Nanar de la Pissaladière. Nanar, vous êtes en plateau. Depuis cet impro-portage qui a été réalisé il y a quelques semaines déjà, avez-vous eu des nouvelles?
Oui, alors je tenais à faire un petit mea culpa. La dernière personne que j'interview dans le reportage était un imposteur. En fait, c'est un Allemand installé là-bas depuis longtemps, fétichiste des pieds. Qui n'avait rien à voir, si vous voulez, avec le peuple de la chaussure, qui était là par opportunisme. Donc je suis désolé.
Les plus linguistes de nos auditeurs ont remarqué la petite nuance d'accent. Effectivement. Bon. Merci Nanar de toujours apporter cette touche d'honnêteté journalistique à vos impro-portages.
Sans prix, Maggie.
Et à vos interventions. Alors on m'annonce que nous sommes de nouveau en improplex depuis Londres, où notre camarade Jean-Marc Moramidi a du nouveau concernant la prise d'otage de Miley Cyrus, enfin la prise d'otage de quelques enfants.
Oui, tout à fait, Magali, effectivement, en direct de Londres, de Crescent Street et Royal Palace, puisqu'effectivement, maintenant, Elton John, et oui, le dénommé Sir, Mr. Sir, eh bien, a lui aussi décidé de participer à ces petites festivités. Excusez-moi, mais le suspense est torride ici à Londres. Elton John, dont le film, vous le savez bien, a fait un démarrage cauchemardesque en Europe et aux États-Unis avec seulement 436 000 entrées, eh bien, Elton John a pris en otage toute une maison de retraite, oui Maggie, 60 personnes, 60 gériatres qui sont pris en otage maintenant depuis 20 minutes.
Alors, est-ce que Miley Cyrus a réagi à cette prise d'otage par Elton John? Il y a un petit peu concurrence au niveau de l'actu brûlante.
Eh bien écoutez, Miley, elle a beau être ce qu'elle est, ses formes Disney, etc. Elle ne peut pas faire le poids contre le sœur de la pop, le Mystery of the King. Donc Miley, eh bien, tout simplement, a relâché les enfants. Par contre, Elton, lui, menace toujours, notamment Greta Thunberg and Sons, qui est également la troisième duchesse de Cambridge and Worcestershire. Eh bien, il la menace de l'égorger si elle n'achète pas son disque.
Alors, il ne reste plus qu'à ce qu'une nouvelle star fasse une nouvelle prise d'otage pour peut-être qu'Elton John réagisse et lui aussi relâche les retraités. On se tient au courant, Jean-Marc?
Oui, tout à fait. Le suspect, c'est insoutenable ici. Je ne lâche pas l'antenne, Maggie.
Très bien, merci. C'était Jean-Marc Moramidi en direct de Londres. Les Improgrammables, l'émission improvisée du Tour Impro Club, toujours à la pointe de l'actualité. Nous allons passer à notre rubrique Impro-culture pour aborder d'autres univers et plonger dans la création artistique. Un autre tempo donc pour ces dernières minutes des improgrammables, avec un invité culturel sur notre plateau, avec vous, David Poujadiste. Alors, cher public, il va me falloir de l'aide, il va me falloir un prénom féminin, s'il vous plaît. Mathilde, une note de musique. Très bien. Alors, un genre culturel, si possible, qui fasse appel au visuel. Quelque chose qu'on va pouvoir décrire.
La danse africaine.
Très bien, soit la danse africaine. Un vêtement.
Une jupe.
Une jupe et enfin une couleur.
Le rouge.
Très bien. Alors, David Poujadiste, vous allez accueillir dans quelques instants sur notre plateau Mathilde Do, qui vient nous présenter sa dernière création de danse africaine intitulée Jupe rouge.
Impro culture.
Une fleur ou un fruit sont embellis, grossis par la culture.
Impro culture.
Plus de graines de pépins ainsi, plus un homme cultive sa tête, plus il est propre à l'admiration au travail de ses mains.
Il va la fermer sa gueule!
Merci Magali, bonsoir, merci d'introduire cette impro culture avec brio et toujours autant de professionnalisme. Et je reçois effectivement aujourd'hui Mathilde Do qui est chorégraphe, scénographe, autrice, maîtrise en scène. Et je vois aussi sur ma fiche Mathilde qui a fait tomber sa tasse de café, mais rien de grave, elle ne s'est pas brûlée, heureusement. Je lis aussi sur ma fiche Mathilde que vous jouez de la musique, du piano, de la harpe, du violon et que vous aimez aussi la collection des boîtes de yaourt. C'est vraiment très original comme parcours Mathilde. Bonjour.
Bonjour David Poujadiste.
Alors Mathilde, on vous reçoit aujourd'hui pour parler de votre dernière création de danse africaine qui s'appelle La Jupe Rouge, qui est actuellement...
Les jupes rouges.
J'ai fait une erreur effectivement sur ma fiche. Les jupes rouges.
Si vous voulez, c'est un melting pot de tout ce que j'adore et ce à quoi j'adhère. C'est-à-dire c'est un mélange de peau de yaourt... avec un mélange de lactose bien réparti sur les jupes rouges qui ne sont pas du tout utilisées comme des jupes rouges. Puisque ce que vous avez sous les yeux n'est pas ce que vous voyez. Ce que vous entendez, David, n'est pas ce que vous entendez. Vos sens sont à l'épreuve. Vos sens ne vous disent pas la vérité.
Alors c'est ça justement qui est formidable dans ce spectacle, c'est que c'est une heure et demie de stroboscope où l'on croit percevoir des couleurs qui n'en sont pas. On croit aussi percevoir des gens qui dansent alors qu'il s'agit de taureaux qui sont lâchés sur la scène. Et au final, quelques décès, hein, c'est dans les répétitions, mais vous avez réussi dans la première, je crois, à avoir un blessé seulement, ce qui est assez extraordinaire.
Écoutez, David, la vie ne m'intéresse pas en tant que telle. Je suis artistique. Je suis au-delà de ça. Il y a effectivement des taureaux, mais est-ce que vous n'êtes pas un taureau finalement? Vous n'en savez rien. Est-ce que vous êtes finalement pas un perroquet? Vous n'en savez rien. L'idée vraiment est de plonger les spectateurs dans une ambiance autre, qu'ils soient vraiment enfumés, qu'ils ne puissent plus se fier à leur sens, qu'ils ne voient rien, qu'ils soient éblouis, qu'ils soient vraiment malmenés afin de leur ramener à vraiment ce qui nous lie, c'est-à-dire nos entrailles.
Alors le propos est très philosophique. On rappelle que Raphaël Antoven est votre co-auteur, hein, qu'il a participé à l'écriture de ce spectacle. Je vous propose, Mathilde, d'écouter un extrait, puisque ce spectacle est à la fois très visuel sur le côté dansé bien sûr, mais aussi très auditif, et là on retrouve votre patte musicale. Alors je vous propose un extrait, vous êtes d'accord?
Je suis d'accord David.
Alors écoutons.
Kaléidoscope.
Voilà, donc on sent effectivement dans cet extrait tout le questionnement sur la vie, le questionnement sur effectivement cette vie de femme que vous menez. Le rouge, la couleur n'est pas hasardeuse. Hein. Je crois que vous faites ici référence à la précarité menstruelle dont on parle depuis quelque temps dans les journaux. C'est un spectacle d'actualité, Mathilde ?
David, déjà, qui vous dit que je suis une femme ? Qui vous dit que le rouge est rouge ? Vous êtes ancré sur vos positions, David, et il faut vraiment vous échapper de ça. Avez-vous vu le spectacle en entier? Et si vous l'avez vu, David, revenez nous voir. Tant que vous ne serez pas sorti de ces stéréotypes, vous devrez revenir, et c'est le cas pour tout le monde. S'il vous plaît, il faut vous évader, il faut un petit peu d'ouverture d'esprit pour regarder allègrement ce spectacle, pour le...
Eh bien, merci Mathilde, je reviendrai, et je ne reviendrai pas seul, puisque j'invite l'ensemble des auditeurs à venir voir ce spectacle, Les Jupes Rouges, qui se joue une fois par trimestre à la halle de Luynes, c'est-à-dire assez peu souvent et en extérieur. Donc cet hiver, prenez vos moufles, prenez vos manteaux et pas de jupes, si je puis me permettre la blague. Merci beaucoup Mathilde et je vous rends l'antenne, Magali.
Les improgrammables.
L'émission improvisée qui prend l'antenne
avant de savoir pourquoi.
Bien, donc vous êtes avec Les Improgrammables, et c'est la fin de cette émission qui malheureusement touche déjà à sa fin. C'était... Oh, merci de cet enthousiasme non fin. Donc, pour clôturer cette émission, un grand merci aux improvisateurs de ce soir, les improvisateurs du Tour Impro Club, qui étaient dans l'ordre Jeanne, Maxime, Mathieu, Arthur, à la technique Cyril, le public de folie Joseph, Émilie à la présentation. Et nous allons entamer le générique de fin avec les quelques infos à noter. Le Tour Impro Club vous attend pour son spectacle Impro École au Pirate Bar, l'ancien bar Le Campus, rue du Grand Marché à Tours, le mardi 24 septembre à 20h30, entrée gratuite. Et puis le Tour Impro Club vous attend de pied ferme également lors du festival Véretz Impro Festival Le Vif, où nous aurons des matchs d'improvisation, les improgrammables, mais aussi bien d'autres spectacles improvisés, les 4 et 5 octobre à Véretz. Et puis bien sûr notre prochain rendez-vous en direct sur les ondes de Radio Campus le lundi 14 octobre à 21h. D'ici là, toutes les actus du Tour Impro Club sur la page Facebook Tour Impro Club. Et d'ici quelques minutes, c'est DJ Inverse que vous retrouverez à l'antenne de Radio Campus pour l'émission Having Funk. À très bientôt.